Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés du média suivant. Paraquad. Au programme, les plaies de pression, un fléau passé sous silence dans les centres hospitaliers du Québec. Et l'accès facile au matériel d'élimination des selles et des urines, c'est vital. Bonne écoute.
Les plaies de pression, un fléau passé sous silence dans les centres hospitaliers du Québec. Un texte de Jessica Picard et Éric Gilbert, paru dans le numéro 159 hiver-printemps 2023 du magazine Paraquad. Qu'est-ce qu'une plaie de pression? Une plaie de pression, aussi connue sous le nom d'escar, d'ulcère de pression ou de plaie de lit, est une détérioration de la peau et des tissus sous la peau causée par la pression, la friction ou le cisaillement. Il y a 4 stades qui servent à identifier la gravité de celle-ci, le stade 4 étant le stade le plus grave juste avant la présence de nécrose. Ce terme « plaie de pression » peut parfois paraître banal et sans importance, mais chez les blessés lésés médulaires, la prévention et la sensibilisation concernant les plaies de pression sont d'une importance capitale. Dans les centres de réadaptation, à l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, IRDPQ entre autres, le personnel soignant sait que 95% des personnes ayant une atteinte à la moelle épinière devront faire face à cette complication au moins une fois dans leur vie, mais que 75% de celles-ci auraient pu être évitées. C'est pourquoi, lors de leur réadaptation, les blessés lésés médulaires reçoivent une formation spécifique sur les plaies de pression afin de les aider à les prévenir, les identifier et en trouver la cause afin d'en minimiser les impacts. Ils deviennent experts de leurs conditions et de leurs besoins. Ils sont donc aptes à les exprimer quand ils arrivent dans un centre hospitalier ou un autre établissement de soins. Par contre, c'est là que le bât blesse. Le personnel, préposé, infirmier, infirmière, médecin, ignore trop souvent les demandes du patient alors que celui-ci exprime ses besoins relativement à ses plaies de pression. Dépendamment de la gravité de celle-ci, la personne atteinte devra être alitée pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plus d'un an dans certains cas. Une plaie pression qui n'est pas traitée rapidement peut nuire significativement à la vie d'une personne. Toute sa vie peut être chamboulée. C'est devoir se laver à la débarbouillette, faire ses soins au lit, cesser ses activités professionnelles, sociales, sportives, de loisirs et familiales. En bref, c'est mettre ses passions et sa vie sur pause. Les impacts d'ordre physique sont majeurs, mais ceux psychologiques le sont tout autant, car l'isolement apporte son lot de contraintes qui s'ajoutent à la complexité de la situation. Il est possible de contrer ce fléau afin de diminuer la prévalence de cette complication. Malheureusement, on s'aperçoit que notre système de santé ne possède aucun protocole et que le personnel n'est pas sensibilisé ni formé pour bien répondre aux besoins spécifiques et complexes des conséquences d'une plaie de pression chez une personne blessée médulaire. La prévention n'est pas mise de l'avant dès la prise en charge, que ce soit à l'urgence ou lors de toute autre intervention ou examen. Plus souvent qu'autrement, ces personnes reviennent d'un séjour dans un centre hospitalier du Québec avec une plaie de pression qui n'était pas présente à leur arrivée et qui, de surcroît, n'a pas été considéré ni traité dès son apparition, souvent sous la forme d'une simple rougeur. Les personnes étant sujettes à faire des plaies de pression, telles que celles avec une blessure médulaire, doivent avoir accès dès leur arrivée à une civière avec un matelas spécialisé à l'urgence et à un lit de prévention lorsqu'elles sont hospitalisées en chambre. De plus, des retournements aux 2 heures doivent être faits pour s'assurer de dégager les points de pression en plus de gérer l'humidité des sites à risque de plaies de pression sur le corps du patient. Au quotidien, ces mêmes personnes se retrouvent livrées à elles-mêmes et encore trop souvent, elles ne savent pas où aller chercher de l'aide. Ajoutons à cela le fait qu'ici ou ici, ce n'est pas tout le personnel infirmier des CLSC qui est adéquatement formé et expérimenté pour traiter et gérer ce type de problématique. De plus, le personnel qui fait son possible est en roulement constant. Tous ces éléments contribue à la dégradation d'une simple plaie de stade 1, rougeur, en cas de plaie complexe qui atteignent les muscles et les os. Celles-ci sont particulièrement difficiles à traiter et nécessitent souvent des interventions chirurgicales, des séquelles physiques irréversibles. La peau ne récupère que 80% de sa capacité de protection à la suite d'une lésion, peuvent se produire et parfois causer la mort en cas de septicémie, par exemple. Selon la documentation de la publication Wound Care Canada, écrite par des experts et financée par Santé Canada, le coût le plus bas pour traiter une plaie de stade 1 ou 2 est de 2 450 $ par mois, tandis que le traitement pour une plaie de stade 3 et 4 sans complications est de 3 616 $. Il est donc possible d'en déduire que l'équipement et la formation nécessaires à la prévention s'avèrent moins coûteux que le traitement de plaies de pression chez plusieurs patients. Alors, pourquoi est-il aussi difficile, ici, au Québec, de recevoir des soins préventifs? Chez Mémo Québec, nous militons activement pour qu'un protocole de soins clair ainsi que des programmes éducatifs complets soient développés pour les professionnels de la santé et ce, avec une mise en œuvre dans le continuum des soins pour assurer une évaluation précise, cohérente et uniforme. Une clinique de plaies de première ligne accessible facilement par téléphone aurait aussi un effet de prévention efficace puisque la mise en œuvre rapide de stratégies de gestion dès le stade 1 préviendrait la dégradation et l'apparition de plaies de pression plus complexes. C'était « Les plaies de pression, un fléau passé sous silence dans les centres hospitaliers du Québec », un texte de Jessica Picard et Éric Gilbert, paru dans le numéro 159 hiver-printemps 2023 du magazine Paraquad. L'accès facile au matériel d'élimination des selles et des urines, c'est vital. Un texte d'Adèle Liliane Gaume-Bendnock, paru dans le numéro 159 hiver-printemps 2023 du magazine Paraquad. Parlez-moi de vous. Je suis bachelière de formation en soins infirmiers depuis 1988. J'ai travaillé d'abord à l'hôpital de la Cité de la Santé, puis j'ai été coordonnatrice dans un centre de soins longue durée pendant 12 ans, jour, soir, nuit. J'exerce ma profession d'infirmière clinicienne à l'IRGLM depuis 2003. Je me suis d'abord occupée des blessés médulaires et des ventilos assistés. J'ai brièvement occupé le poste de conseillère en soins et j'ai ensuite exercé quelques années auprès de la clientèle amputée et avec blessures orthopédiques graves en tant qu'assistante ou supérieur immédiat ASI. Depuis 2013, je suis ASI à la clinique externe de l'IRGLM. Au cours des dernières années, quels problèmes avez-vous observé chez votre clientèle? Les patients, dont la Régie de l'assurance maladie du Québec, RAMQ, est l'agent payeur et qui sont en dehors de l'île de Montréal, éprouvent beaucoup de difficultés à obtenir un financement pour leur fourniture d'élimination. Le traitement d'une demande peut prendre jusqu'à 3 à 4 ans dans certaines régions. Très souvent, la quantité des cathéters fournis ne répond pas aux besoins réels du patient, soit un cathéter par jour et parfois même un par semaine pour des patients qui se cathétérisent 4 à 6 fois par jour. Pour certains, en dépit de leur manque de dextérité, ils ont fini par développer une certaine autonomie pour se cathétériser et, lorsqu'il leur manque du matériel, sont contraints de laver leurs cathéters pour les réutiliser. Tout ceci augmente leur risque de développer des infections urinaires à répétition. En dernier recours, certains patients doivent se tourner vers l'irrigation transanale péristyne. Il s'agit d'un système qui propulse de l'eau dans le gros intestin de façon à faciliter la vidange des intestins. Il comprend un cathéter rectal avec ballonnet pré-lubrifié à usage unique, des tubulures, une unité de contrôle qui permet de pousser l'eau dans l'intestin et une poche à eau. On utilise le péristyne en dernier recours lorsqu'il y a échec au curage rectal et à la stimulation anale manuelle, au laxatif ou en présence de fissures anales ou d'hémorroïdes. Cependant, ces patients se voient refuser le financement du péristyne avant une colostomie et se retrouvent souvent dans leur selle avec des complications de plaies. Certains patients ayant des spasmes non contrôlables par la médication orale, ont recours à la pompe intrathécale, à l'iorésal, qui libère le médicament en microdose sans effet secondaire incommodant. L'administration de ce médicament sous cette forme nécessite un kit de remplissage spécifique qui n'est pas couvert par la RAMQ. Les patients concernés se voient donc obligés de payer eux-mêmes le kit pourtant nécessaire. Quels sont les impacts pour la clientèle qui n'a pas accès au péristyne? Certains patients blessés médulaires éprouvent beaucoup de difficultés à gérer leur intestin. Ces patients ont souvent tout essayé, les laxatifs, la bonne technique de curage rectal et de stimulation anale, la diète, l'hydratation et l'assiduité dans l'horaire des soins intestinaux. Certains peuvent même passer 2 heures ou plus à essayer de faire sortir les selles en vain pour se retrouver un peu plus tard dans la journée en incontinence fécale. En plus de se retrouver dans leurs selles, ils sont exposés à plusieurs complications telles que l'apparition de plaies dues à l'acidité des selles et de l'humidité au contact avec la peau des fesses déjà fragilisée à cause de la pression en étant en fauteuil roulant. Les hémorroïdes qui peuvent saigner jusqu'à rendre ces patients anémiques. La formation de fécalum qui peuvent se compliquer en occlusion intestinale. La présence d'un fécalum empêche l'évacuation des selles, ce qui fait que les intestins exercent une pression sur la vessie et perturbent une vidange adéquate. La rétention urinaire peut se compliquer par la suite et entraîner une infection urinaire. L'incontinence fécale peut aussi provoquer des infections urinaires à cause du méa urinaire qui se situe dans la même région anatomique que l'anus. Les fissures anales et le prolapsus rectal, ce sont aussi des complications qui peuvent s'en suivre pour ne citer que celles-là. Malgré leur handicap, la plupart de ces patients retournent sur le marché du travail ou aux études. Ils veulent avoir une vie active et épanouie, mais l'incontinence fécale récurrente les isole et les empêche d'être utiles à eux-mêmes et à la société. Cette condition augmente les risques d'absentéisme au travail ou de décrochage scolaire. Vous écoutez, l'accès facile au matériel d'élimination des selles et des urines, c'est vital. Un texte d'Adèle Liliane Gault-Mendnock, paru dans le numéro 159 hiver-printemps 2023, du magazine Paraquad. Le problème d'accès ou péristyle se pose pour les personnes qui sont couvertes par la RAMQ. Celles qui ont des assurances privées et celles qui sont couvertes par la Société de l'assurance automobile du Québec, SAAQ, ou d'autres agents payeurs en bénéficient. Pourtant, l'argent qui vient de la RAMQ et de la SAAQ est celui de l'État et donc l'argent des contribuables. Pourquoi cette médecine à deux vitesses, cette injustice dont on ne parle jamais? Tout le monde qui en a besoin devrait y avoir droit. Combien coûte-t-il? Le système Péristyle coûte environ 5 021,10 $ à 10 400 $ par patient par année, dont 358,62 $ pour deux systèmes complets par année. Le reste du coût annuel dépend du nombre de cathéters rectaux nécessaires. Le coût d'un kit de 15 cathéters rectaux avec le sac est de 388,84 $, et les frais totaux dépendent donc de la fréquence à laquelle le patient doit vider son intestin. La majorité des patients font l'irrigation transanale chaque 2 jours ou 3 fois par semaine, mais au début de l'utilisation, il est suggéré de le faire chaque jour jusqu'à ce que la routine s'installe et que la vidange soit bien contrôlée. Qu'en est-il de l'accès au matériel d'élimination autre que le Péristyle? De quel type de matériel s'agit-il et dans quel délai les personnes peuvent-elles l'obtenir? Lorsque nous parlons de matériel d'élimination, il s'agit de cathéters à usage unique dont les patients ont besoin pour vider leur vessie. Nous constatons que ce matériel est facilement accessible à Montréal où les patients l'obtiennent en moyenne entre 6 semaines et 3 mois. Par contre, à l'extérieur de Montréal, les gens attendent plusieurs mois et même des années avant de l'obtenir. Quand nous appelons les CLSC pour savoir pour quelles raisons les patients n'ont pas le matériel, les gestionnaires nous répondent que la couverture budgétaire allouée pour ce programme en région n'est pas suffisante pour répondre à la demande dans un délai acceptable. Pourtant, la fonction d'élimination fait partie des besoins fondamentaux de l'être humain. Quels sont les impacts pour les personnes qui n'en ont pas? Il est important de comprendre que lorsque les personnes sont blessées médulaires, leurs vessies et leurs intestins ne fonctionnent plus comme avant. Il est donc essentiel d'avoir le bon matériel pour évacuer l'urine et les selles puisque ces personnes ne peuvent plus vidanger leurs vessies et leurs intestins naturellement. Sans l'accès adéquat à leur fourniture d'élimination, les personnes blessées médulaires sont à risque de complications graves. Les coûts des soins de santé liés à ces complications sont élevés et peuvent même exploser si ces personnes sont obligées d'être hospitalisées pour septicémie, pyélonéphrite secondaire aux infections urinaires, occlusion intestinale, chirurgie pour plaies liées aux incontinences. Selon les recommandations de bonne pratique, il faudrait que le cathéter soit à usage unique. Si le patient se cathétérise 6 fois dans une journée, il devrait utiliser 6 cathéters neufs. Que se passe-t-il avec le Ditropan XL? Depuis quelque temps, les patients n'ont plus accès au Ditropan XL, qui est un médicament antispasmodique. Les patients ne peuvent plus l'avoir parce que le fabricant ne le produit plus. Les médecins vont devoir prescrire une autre molécule. Toutefois, le Ditropan à courte action est toujours fourni par la RAMQ. Parlons du kit de Lioresal. À quoi sert-il? Quel est son impact sur la vie des patients qui en sont privés? Le kit à Lioresal est utilisé pour vider et remplir la pompe intrathécale. C'est un système muni d'un cathéter inséré chirurgicalement qui libère le médicament en microdose selon la prescription du médecin contre les spasmes sévères non soulagés par la médication orale. À la clinique, nous suivons 41 patients ayant des pompes. La pompe est implantée dans l'abdomen. Elle a une durée de vie de 7 ans, à l'issue desquelles elle doit être changée. La fréquence de remplissage varie d'un mois à 6 mois en fonction des besoins de chaque patient. Lors du rendez-vous, Le reste de l'ancien médicament est retiré à l'aide du kit de remplissage et le nouveau médicament est ensuite administré. Le liorésal intrathécal a une stabilité maximale de 24 semaines et après quoi, il est moins efficace contre les spasmes. Cette technique de vidange et de remplissage de la pompe requiert une aiguille spéciale qui fait partie du kit de remplissage. Malheureusement, jusqu'à présent, la RAMQ ne couvre pas encore le kit, qui est essentiel pour la procédure, alors que le médicament lui-même est couvert. Le kit coûte entre 50 $ à 60 $. La situation est similaire à celle d'une personne diabétique qui doit se piquer tous les jours pour connaître sa glycémie. Elle a besoin de tout son matériel pour le faire. Si vous aviez une ou deux choses ou des changements à demander au gouvernement en 2023, que demanderiez-vous? Notre démarche est de vous faire part de la dure réalité de ces clients et de voir dans quelle mesure vous pourriez rendre accessibles tous les produits cités plus haut afin de rendre les clients autonomes, diminuer le coût à la société et éviter des chirurgies supplémentaires reliées aux complications. Par le fait même, offrir une meilleure qualité de vie à ses patients, en dépit de leur handicap. Mémo Québec trouve inacceptable que des économies de bout de chandelle justifient que l'on piétine le droit au matériel d'élimination des personnes qui en ont besoin. En conséquence, nous nous assurons de remonter les manquements dénoncés dans cette entrevue aux gestionnaires du ministère de la Santé et des Services sociaux, M3S. Nous l'avons déjà fait l'automne dernier en déposant la lettre en page suivante signée par plus d'une quinzaine de soignants de l'IRGLM au sujet du Peuristine. Cet hiver, nous poursuivons ce travail auprès du ministère. Je vous rappelle que vous écoutez l'accès facile au matériel d'élimination des selles et des urines, c'est vital, un texte d'Adèle Liliane Gombin-Knock paru dans le numéro 159 hiver-printemps 2023 du magazine Paraquad. Lecture de la lettre au sujet du Peuristine. Objet. Demande d'autorisation du financement du Peuristine irrigation transanale. Madame, Monsieur. La présente est pour vous faire part d'une situation à laquelle est confrontée une catégorie de notre clientèle que nous desservons et de voir dans quelle mesure vous pourrez intervenir afin de les soutenir dans leur quête de réintégration à la société après leur accident en autorisant l'accès au système d'irrigation transanale. Certains patients blessés médulaires éprouvent beaucoup de difficultés à gérer leur intestin. Ces patients ont souvent tout essayé, les laxatifs, la bonne technique de curage rectal et de stimulation anale, la diète, l'hydratation, l'assiduité dans l'horaire des soins intestinaux. Certains peuvent même passer 2 heures de temps ou plus à essayer de faire sortir les selles en vain, pour se retrouver un peu plus tard dans la journée en incontinence fécale. En plus de se retrouver dans leurs selles, ils sont exposés à plusieurs complications telles que l'apparition de plaies dues à l'acidité des selles et de l'humidité au contact avec la peau des fesses déjà fragilisée à cause de la pression en étant en fauteuil roulant. Les hémorroïdes qui peuvent saigner jusqu'à rendre ces patients anémiques. La formation de fécalums qui peuvent se compliquer en occlusion intestinale. La présence de fécalum empêche l'évacuation des selles, ce qui fait que les intestins exercent une pression sur la vessie et perturbent une vidange adéquate. La rétention urinaire peut se compliquer par la suite en infection urinaire. L'incontinence fécale peut aussi provoquer des infections urinaires à cause du méa urinaire qui se situe dans la même région anatomique que l'anus. Les fissures anales et le prolapsus rectal, ce sont aussi des complications qui peuvent s'en suivre, pour ne citer que ceux-là. Malgré leur handicap, ces patients, pour la plupart, retournent sur le marché du travail ou aux études. Ils veulent avoir une vie active épanouie. Mais l'incontinence fécale récurrente les isole et les empêche d'être utiles à eux-mêmes et à la société et augmente l'absentéisme au travail ou le décrochage scolaire. Présentement, seuls les patients qui sont bénéficiaires d'une couverture d'assurance privée ou qui sont prestataires de l'indemnité de la SAAQ ou de la CNESST ont recours au système de lavement Puristin transanal, ce qui change radicalement leurs conditions pour le mieux. Si nous tenons compte du coût que les complications citées plus haut peuvent occasionner à notre système de santé déjà précaire, nous croyons que rendre ce produit accessible à ces patients serait plus rentable financièrement à la société, diminuerait le taux de dépression et d'isolement chez cette clientèle, les intégrerait en tant que travailleurs actifs et augmenterait leur autonomie. Espérant que cette démarche sera prise en considération, nous vous prions, Madame, Monsieur, de recevoir nos remerciements anticipés et nos salutations distinguées. C'était l'accès facile au matériel d'élimination des selles et des urines, c'est vital, un texte d'Adèle Liliane Ngo-Meng-Kroc, paru dans le numéro 159 hiver-printemps 2023 du magazine Paraquad.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.fzvoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.